Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Moi, mon bon seigneur, nous serait-il possible de voir bien au-delà de la limite de ces champs où l'on cultive le mépris, la haine entre les gens, pendant que vous dormez sur ces coussins gonflés d'argent? Ne comprenez-vous pas, nous ne sommes point différents, nous aimerions tout simplement nourrir nos enfants. Nous n'avons ni les biens, ni terre, ni même coussins que vous offrez si courtoisement aux tendres courtisanes. Je blâme votre honneur, tout comme celui de vos descendants, qui dans la file d'attente n'hésite pas à passer devant, le torse bombé d'orgueil, les poumons vides d'inspiration, à l'image d'un bon père qui exaspère tous ces millions de villes affamées qui jurent de vivre comme des damnés et qui pour eux sont prêts à tout pour que naisse la révolution. Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux femmes de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine. Dites-moi, mon bon seigneur, entendez-vous la rage qui fait trembler la France et les pavés sur votre passage? Elle gronde les ruelles, les rumeurs se propagent, on brûle les calèches et le lion sort de sa cage. Soutenu par ses penseurs, d'insouciants révoltés, au salon parisien, l'absinthe a remplacé le thé, rendant la foule si ivre de toutes les libertés. L'individu est né par la force de son poignet. Qu'importe les barricades, le peuple a décidé. Les nuits seront terreurs jusqu'à ce que l'homme trouve dignité. l'humanité. On arrache les symboles qui brillent comme une idole, qui trône sur la basse-cour rendant ces pauvres âmes si folles, qui rêvent d'un autre monde plus juste et plus honnête qu'une simple fête de roi où l'on partage la galette.
Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux fables de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine.
Dites-moi mon bon seigneur, entendez-vous la fin du règne féodal qui plane comme un chant? Le peuple a fait serment, pour vous les pas perdus. D'un revers de la paume, la France a su reprendre son dû. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces combats d'antan, de ces belles déclarations que l'on souille à chaque instant? Les rôles n'ont pas changé en quelques décennies. La valeur de la vie s'aligne toujours sur le trottoir. Les gens n'ont-ils plus faim? Ont-ils un lit le soir? Mais qui donc joue la comédie sur le dos de mon histoire?
Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux fables de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine.
Bonjour tout le monde. Canal Sud 92.2, bonsoir tout le monde. Voici le podcast réveilloniste, réveillonnaire, enfin de réveillon quoi, que je vous avais promis et que vous verrez demain matin parce que ça prend du temps. Alors, au risque de choquer les puristes, depuis Henri IV, on va faire un grand bond en avant, vous savez, comme on disait il y a quelques décennies. Et on arrive tout d'un coup comme ça à Louis XV. Alors pourquoi Louis XV? Eh bien parce que c'est le personnage qui vous fera certainement le plus rêver un soir de réveillon. Il y en a d'autres qui sont plus pittoresques, qui ont marqué davantage nos mémoires d'enfants, d'adolescents à l'école, au lycée. Mais enfin, le Louis XV dont je vais vous parler, c'est un peu particulier. Louis XV fut sans doute le premier gringo qui adora le café. Le café et les femmes, puisque ce sont les femmes qui lui faisaient le café et qui le comprenaient. La première qui le mit bien au chaud entre ses bras fut Madame de Ventadour, qui lui servit de gouvernante.
Ce qu'il était petit, le Louis, à l'époque. À 5 ans, il n'avait pas de papa, il n'avait pas de maman, et se sentait plus perdu qu'une bonne sœur dans les toilettes des hommes.
Madame de Ventadour, elle, lui mit la tête entre ses grosses doudounes maternelles et lui dit « Réchauffe-toi ici, mon loulou. Les femmes, c'est fait pour réchauffer les hommes. » Et il s'en souvint toute sa vie. Car en dehors des femmes et du café, il est vrai que pas grand-chose ne l'intéressa. Aussi, c'est que tout allait trop vite pour notre petit loulou. On l'a fiancé et bombardé majeur à 13 ans. Et on l'a marié à 15. Vous vous rendez compte? C'est qu'il faut avoir un drôle de répondant sous la barboteuse à cet âge-là pour assumer un rôle pareil. Heureusement pour lui, ce n'est qu'à l'âge de 17 ans, dans son pageot nuptial, qu'on l'autorise à caramboler son épouse, Marie Leczinska, la fille du roi de Pologne, qui vient de paumer son trône. Marie est une vieuque de 23 balais, à la boîte à ouvrage accueillante. D'un seul élan et du premier coup, il lui fait un lardon. Sachez qu'il est superbe, notre roi de France, et déjà viril comme un clou de tapissier. » Avant de conclure ce marida, il n'y eut pas moins de 17 gonzesses à se saccager la guépière avant de savoir laquelle d'entre elles serait choisie par le jeune monarque. C'est finalement Marie qui avait emporté le morceau, vu qu'il n'y avait pas deux comme elle pour lui réussir le rabe de lapin à la vodka. Les vertus aphrodisiaques de ce plat ne font d'ailleurs aucun doute, car Louis ne tricota pas moins de 8 pisseuses à Marie, sans compter le dauphin qui ne régnera jamais, vu qu'après 1765, il était beaucoup trop mort pour ça. Dès qu'il fut tenu de gouverner, les affaires de l'État déprimèrent Louis, encore bien plus qu'une journée de pluie sans compagnie féminine. Cependant, lors d'une petite flambée d'autorité, Loulou, qui devait bien faire semblant de s'occuper tout de même des affaires de son pays, vira Henri de Bourbon-Condé, qui n'aimait pas le café. Il le remplaça par le cardinal Fleury, qui avait été pour lui un précepteur aux œufs et qui lui faisait des expressos comme pas deux. Hormis l'arabica moulu fin, ce qui réveille le beau Louis de temps en temps de sa léthargie, ce sont bien entendu les nanas. Marie, qui en a ras la panse d'être en cloque tous les 9 mois, l'envoie à présent au bain quand son époux essaie de lui faire la prise du bison dans son pieu à baldaquin. Avec son entourage, nous dit l'histoire, Louis était susceptible et méfiant comme un bœuf qui passe devant une boucherie. Peut-être un peu pervers aussi. Choiseul le décrit, aimant le mal comme les enfants aiment à faire souffrir les animaux. Et cette indolence, qui cédait parfois la place à l'anxiété, venait des problèmes qu'il avait constamment avec sa tuyauterie. Toute sa vie, on entendit son estomac faire du morse, et aucun diaphoirus de l'époque ne décrypta ses messages. Pourtant, à la chasse, il crève tout le monde, son cheval et l'équipage, les rabatteurs, les biches, les sangliers. Si en fin de journée il trouvait une bergère virtuose de la quenouille, il ne la laissait pas filer. Si en plus elle lui jouait de la flûte, il pouvait passer des heures à pleurer à chaud bouillon devant sa bouche bée. D'ailleurs, il tombait aussi facilement amoureux qu'un cycliste débutant tombe de son vélo. C'est ce qui lui arriva la première fois avec Madame de Chailly. Il fut d'abord abasourdi de s'apercevoir qu'on pouvait aimer une femme autant qu'une tasse de café. Quand il déclenchait malgré lui une séance de morse, elle lui faisait des compresses sur l'estomac avec des crêpes suzette au sarrasin, et ça le rendait encore plus amoureux. Puis, pour changer un peu de crêpe, il prit comme maîtresse Madame de Châteauroux, imbattable sur les beignets. Dès que la pâte levait, elle la mettait tout de suite au four, et Loulou était émerveillé de voir tout ce qu'une femme peut faire avec les mains pleines de farine. Mais il lui fallait quand même bien se rendre au conseil pour y faire le roi de temps en temps. Quand le cardinal Fleury déchire sa soutane, Loulou n'a que 33 balais. Jusque-là, il a laissé flotter les rubans car il a toujours été incapable de prendre une décision tout seul. Avec ses ministres, il était aussi sûr de lui qu'un lapin dans la cage d'un tigre. Quand on lui demande son avis, il dit « Oui, peut-être, c'est possible, à la rigueur. » Cependant, « Bon, faites comme vous voulez. » Et puis, il y a toujours une guerre ici ou là, et ça, ça le gonfle franchement. Il embarque avec lui la Châteauroux, et il part donc à Metz, où l'on est en train de se chicorner pour un bout de terrain. Là, il n'a même pas le temps de brandir sa royale épée que son estomac se met à gazouiller comme un évier de cantine. À l'instant même où Madame de Châteauroux est en train de lui cloquer des compresses de pâte à beignet sur le burlingue, voilà Tipa que sa bourgeoise qui rallège. Elle a entendu dire que son loulou chéri est vissé sur son pot et bien sûr, en épouse dévouée, elle vient lui tenir la main. Elle tombe du donjon quand elle voit la Châteauroux en train de faire de bouche à bouche à son mec. La maîtresse, confondue, se ratatine sous les huées de la foule et s'évapore dans la nature comme un pet de jument dans l'air pur du matin. Le premier aumônier du roi, qui est gai comme une tumeur dans un bocal, exige de Loulou une confession publique de ses fautes pour lui filer l'absolution. Répandue à travers tout le royaume par les curetons, la confession de Loulou, qui déclare être indigne du nom de roi très chrétien, laisse son peuple chéri sur le fion et les nobles au bord de l'apoplexie. Son autorité en a pris un coup dans la perruque. Pour se faire pardonner, Loulou fait alliance avec les Prussiens et il va gagner plein de batailles. À Fontenoy, où il se bat lui-même comme un lion, puis à Roucou, et enfin à Lofeld. Il signe la paix d'Aix-la-Chapelle en 1748, mais il paume l'occasion de récupérer Nice et la Savoie. C'est Napoléon III qui y arrivera quand même 112 piges plus tard. La guerre et les servantes d'auberge le foutent sur les rotules. Loulou, au fond, ce qu'il préférerait, c'est qu'on gouverne à sa place. Et puis aussi s'occuper des madames, pardi. Celle qui se pointe alors pour enrichir sa panoplie de petites culottes est une sacrée pointure à elle toute seule. Vous avez deviné, il s'agit évidemment de la Pompadour, Jeanne-Antoinette Poisson. Deviendra la maîtresse de Loulou avant d'être la marquise de Pompadour. À 22 piges, elle est grande, mince et cambrée comme un bec de cafetière. Blonde, les calots couleur de ciel, elle était plus belle qu'un lever de soleil sur un compte en banque suisse. Elle avait un époustouflant pont arrière et des nichemars si superbes de l'autre côté qu'on avait un mal fou à imaginer qu'en plus elle pouvait parler. Ajoutez à tout ça qu'elle jactait même très bien la matine. En plus de la royale chipolata de son loulou chéri, pendant 21 ans, elle s'occupa des finances et prit des centaines de décisions importantes en gouvernant quasiment à la place de son loulou, qui s'en toponnait joyeusement la redingote. « Après moi le déluge », y disait, en dégustant sa cantaride. À la mort de Madame de Châteauroux, qui depuis le scandale oublié assurait encore en lousdé à Louis de Royal Secousse, la Pompon, comme l'appelait Loulou, sauta à pieds joints dans les eaux troubles de Versailles et fut reconnue officiellement comme la maîtresse du roi. Pour se faire remarquer par le beau Louis, elle avait maquillé un numéro pas possible. Des bagoulants partout, à qui voulait l'entendre, que Loulou était son type de mec, viril et tout comme elle les aimait, qu'il était le seul à lui faire grimper le palpitant à 150 battements minute et le seul aussi à lui filer le feu au bégonia quand elle l'apercevait. Et qu'enfin, si un jour elle faisait cocu son mari, ce serait avec lui et pas avec quelqu'un d'autre. Le jour où elle enquille dans le pajot de Loulou, tout le monde veut lui faire becqueter son éventail. La cour d'abord, où on la regarde comme une crotte de lapin sur un gâteau de riz, et aussi le populo parisien, qui pour se venger d'elle, la poisson, chante des poissonnades. Loulou, lui, il est heureux. Elle s'occupe très bien de lui, sa pompon. Elle fait tout ce qu'il faut au moment où il faut. Finalement, Loulou, elle l'a pigé très vite. Il s'emmerde tout le temps. Alors, en dehors des séances de pipeau royal, qu'elle essaye de varier toutes les trois mesures, elle lui fait les ciseaux de la marquise ou la pince de homard brésilienne. Et lui, il la trouve géniale. Elle l'est. Vous dire à quel point elle ménage son roi. Pour ne pas lui râper les jointures, elle se fait pistonner par un pote à elle, Paris Duvernay, et elle s'embourbe le marquisat de Pompadour. Du coup, elle postillonne sur les rubans des pétasses poudrées de la cour. Pendant 21 piges, c'est elle qui fera la loi à l'ouest du Pécos. Elle fait et défait des ministres, nomme des généraux ou sac des ambassadeurs. Contre les Curtons, c'est bien sûr Pompon qui met Choiseul en place. C'est encore elle qui va se farcir le traité de Versailles qu'elle fait signer à Loulou avec Marie-Thérèse d'Autriche. Elle file un sérieux coup de mimine aux philosophes et aux magistrats contre l'Église, les jansénistes et les jésuites. Elle en fait tant qu'elle devient aussi impopulaire qu'un impôt. Loulou, lui, pour tromper le froid, se laisse gentiment réchauffer le sceptre par le micro-ondes de sa Pompon. Au retour de la chasse, il la trouve époustouflante. Elle fait toujours tout ce qu'il faut pour le faire goder comme un communiant. Elle lui raconte plein de vacheries sur la cour. Elle est pleine d'esprit. Elle le fait marrer et en plus, elle est bandante comme une soupière de caviar. Que demander de plus? Elle beurre la tartine des écrivains qui deviennent tous ses potes. Crébillon, Marmontel, Montesquieu, Rousseau. Elle jouera même dans une de ses pièces à la cour de Fontainebleau. Et aussi, et surtout, Voltaire. C'est grâce à elle, car Loulou n'était pas chaud pour ça, c'est grâce à elle que Voltaire devient l'historiographe du roi, puis académicien et gentilhomme de la chambre. Voltaire, qui écrit après la mort de Pompon, « Je lui avais obligation, je la pleure par reconnaissance. » C'est encore elle qui lèche la blessure de son Loulou après l'attentat manqué de Damiens. Pompon ne resta que 5 ans dans le cœur et dans le pieu de son roi. C'est elle-même qui lui dit un jour, avec sagesse, « Mon Loulou, si tu veux bien, on arrête le vilebrequin mongol. Tu vois, je commence à rendre la monnaie. J'ai les cannes flageolantes, les soufflets qui prennent l'eau, et mes doudounes se rapprochent de jour en jour, doucettement, de mes escarpins. Toi, tu es toujours beau et fort comme Popeye. Alors, avant que tu ne t'aperçoives à ton réveil que tu as Olive à côté de toi, j'aime mieux les mettre. Mais ne fais pas la tronche pour autant, car dans ton petit bésodrome du parc aux cerfs, j'ai plein de copines à moi qui demanderont pas mieux que de venir te proposer de visiter leur kiosque à musique. Si tu veux bien, je continuerai de m'occuper des affaires courantes de l'État. » Pendant 21 piges, ce fut elle, le roi de France, mes chéris. Ce qui coince un peu dans le tableau idyllique, c'est que les armoires et les commodes, Louis XV bien sûr, de la Pompadour, sont pleines à craquer, mais que les caisses de l'État, elles, sont quasiment aussi vides que la cervelle d'un CRS. Loulou ne sait vraiment pas comment il pourrait arranger le mastic. Les parigots râlent, les fermiers généraux se morfalent des privilèges exorbitants. Il y a tant de corruption et de prévarication que les Bretons commencent à balancer leurs artichauts sur la poire des possédants. Il y a même un certain Mandrin qui se prend pour Zorro et qui fout une joyeuse merde dans nos riantes campagnes. Loulou soupire un grand coup, demande ce qu'elle en pense à Pompon qui lui dit « Espicé, va plutôt voir au parc aux cerfs, je t'ai dégoté de la viande fraîche, tu m'en diras des nouvelles. » Cet endroit magique, c'est elle qui en a fait un véritable aimant pour la royale bistouquette de son ex-amant. Elle y fait crécher à tour de rôle ce qu'elle appelle des pensionnaires, filles vénales de modeste souche, certes, mais toutes superbement carrossées, qu'elle pourrait tourner à l'Oualpé sans complexe dans le 18e retour d'Emmanuel. Ces gonzesses de rêve ne sont qu'un pare-feu contre les grandes dames de la cour qui ne rêvent que de royaux carambolages avec ce chaud lapin de Loulou et surtout, bien sûr, de piquer la place à Pompon. Elles n'y arriveront pas. Il y en a pourtant un paxon qui se font chiffonner la laitue par le vaillant pointeur. Madame d'Esparbès, Madame de Grammont, Madame de Forcalquier, Madame de Choiseul-Beaupré, Madame de Coislin et la demoiselle de Romance, plus modeste celle-là, dont le papa était chef de fabrication dans une usine de chaussures. Et puis vous en ajoutez encore quelques douzaines et vous serez presque au bout du compte. Maîtresse privilégiée du roi durant 5 ans, mais confidente et conseillère omnipotente, Pompon avait finalement régné pendant plus de 20 piges. Depuis plusieurs années, elle se barrait de la caisse et commençait à glavioter ses éponges. Vers la fin, elle fit preuve de beaucoup de courage et de piété. En 1764, à 43 balais, elle mit les volets à la boutique. Contrairement à la légende, Loulou chialait, paraît-il, comme un veau. On le comprend, car il allait la voir du rail pour dégoter un fournisseur de cette qualité. Elle mourut très riche et très pieuse. La noblesse, qui lui avait quelque peu cherché des poux dans la tête à une époque, avait de quoi être fière d'elle. Elle pouvait se vanter de n'avoir jamais fait de bien à un pauvre. Comtesse du Barry, jeune et jolie personne de basse extraction, elle était fille d'une lingère et d'un moinillon de Picpus, s'engouffra tout d'un coup dans la vie de ce sacré bandeur de Loulou en 1768, juste 4 ans après que la Pompon eut craqué ses bretelles de favorite. Kaunitz, un observateur subtil, écrit qu'à cette époque, le roi, fatigué par les plaisirs, n'a plus la prestance d'antan. Jeanne, par contre, Voltaire disait d'elle qu'elle était jolie, gaie, fraîche, naturelle et appétissante comme une reconnaissance de dette. Toutefois, lorsque Loulou rencontre Jeanne, sa virilité reprend soudain le dessus, si je puis employer cette triviale expression. Jeanne avait été jusque-là une fille bien méritante. Elle avait peut-être un cheveu sur la langue, mais elle n'avait pas un poil dans la main. Elle avait été femme de chambre dans des maisons où le mari s'arrangeait toujours pour passer ses journées à repeindre la chambre. Elle avait vite pigé, futée comme elle était, qu'elle devait nettoyer aussi le pinceau avant de partir. Elle changea souvent de place, car ses patronnes trouvaient son travail un chouïa trop léché. Il est bien connu, hélas, que les pauvres ne savent jamais par quel bout ils doivent prendre les riches. Ces services secrets apprirent à Loulou que la môme Jeannette aurait aussi travaillé chez Lagourdan. Pour vous situer un peu, comparée à Lagourdan, Madame Claude aurait eu l'air d'une rosière qui sert le thé au couvent des oiseaux. Le drame de cette pauvre Jeanne, c'est qu'elle aimait tous les hommes, mais principalement les vieux, qui travaillait dans la finance. On n'a jamais exactement compris pourquoi. On croit savoir qu'Elastica consciencieusement la lunette du secrétaire de la marine. Elle tomba aussi maintes fois aux genoux de l'abbé de Bonnac, essayant charitablement par là d'apporter un remède à son trop-plein de chasteté. En fait, uniquement par charité chrétienne, Jeanne soulageait principalement tous les anciens combattants à qui il restait encore une balle dans le canon et qui ne savaient qu'en faire. De fil en aiguille, Jeannette entra chez le comte Jean du Barry, une fois encore comme femme de chambre. Elle se montre si habile avec le plumeau que le duc du Barry, extasié, la refile à son frangin Guillaume du Barry, chez qui le ménage était très mal fait. Le Guillaume, époustouflé par les mensurations de Jeanneton et par la façon qu'elle avait de lui rouler les paupiètes, l'engage aussi sec. Il rêve de lui donner un blaze afin de l'introduire, encore une fois, à la cour, car il renifle déjà à quel point la mignonne va lui redorer son blason en même temps que ses cartes de crédit en entrant dans le pucier du roi. L'emmène à Versailles, dans son carrosse pourri, et le vieux loulou tombe aussitôt en arrêt devant le dargeot hallucinant de la coquine. Il lui demande si elle aimait les dragées. Elle lui dit oui, si elle était encore pucelle. Elle lui dit presque. Et il l'a mis dans son pajot d'où il vira la duchesse de Gramont, une vieille qui avait déjà la trentaine et qui lui servait de chaufferette. Héberluée par tous les menus services qu'elle pouvait rendre dans une maison, Loulou en fit sa maîtresse officielle, après l'avoir mariée à Guillaume du Barry. C'était tout de même plus convenable. La jolie Jeannette était moite de bonheur. Elle apprit à Loulou le fer à tuyaux de la blanchisseuse et lui offrit une paire de chaussettes neuves dans lesquelles elle lui passait le café tous les matins. En cette année 1768, Loulou rayonnait de bonheur, lui aussi. Sa femme venait de mourir. De plus, voilà que ce doux feu follet au cul de braise venait lui rallumer le tison. Tout comme la Pompadour, la brave et vaillante Jeannette s'agitait le trou de balle du matin au soir pour satisfaire son Loulou. Elle le massait comme un catcheur pour soulager ses vieilles crampes, lui filait un grand bol d'arabica le matin pour le réveiller et une infusion de cantharide le soir pour le redresser popole. Elle lui nettoyait les étiquettes elle-même car elle le trouvait un peu dur de la feuille et lui faisait bouillir des pruneaux pour le faire aller au petit coin. À 58 balais, Loulou trouvait que personne ne s'était jamais si bien occupé de tous ces petits détails qui vous illuminent la vie. Les courtisanes renaudaient, débectées par cette roturière qui avait mis le grappin sur Loulou. Il y avait forcément comme des grincements d'éventail chez ces vieilles biques qui avaient des tronches enfarinées comme des merlans dans le seul but de planquer leurs vieilles rides. Le vieux Loulou, il était peut-être un peu sourdingue, mais il n'était pas miro. Il préférait, et de loin, avoir ce tendron dans son plume que tous ses prix à réclamer qui gloussaient dans la cour. Il avait envoyé dinguer son ministre Choiseul, qui avait cru bon de ramener sa fraise au sujet de Jeannette. « Mon cher ministre, elle est très jolie. Elle me plaît et cela suffit. Pan, mets-toi ça dans le chou, avec une bouillotte par-dessus. » Cependant, le vieux loulou, qui carambolait comme une bête, des mouquières différentes depuis 40 piges, se rendait bien compte que son arbalète était loin d'être aussi performante qu'avant. Il lui arrivait même de faire chou blanc malgré son doping au céleri. La comtesse d'Esparbès en avait fait les frais 4 ans plus tôt. Évidemment, elle n'avait pas pu s'empêcher de bavasser auprès de ses copines en leur racontant par le menu le bide de ce pauvre loulou. Avant de se mettre à l'établi, il avait bien sûr avalé du piment, du céleri et tout le cric à bite qui lui tombait sous la main. Malheureusement, ça n'avait pas empêché la comtesse de mettre les chaussettes à la fenêtre. Ce qui signifie ce qui s'était passé, ou plutôt pas passé. Le roi la vira de la cour, non sans lui avoir rappelé qu'il y avait d'autres manières de se servir de sa menteuse. Jeannette était toujours enjouée comme un goujon avec Lolo. Elle se posait sur la tête un panier à salade et se cloquant en pogne le rouleau à pâtisserie à la place du sceptre, elle le singeait en déclarant un pied en avant « Le roi exige !» Et ça faisait poiler un max. Au moment de se tirer à la cour pour aller y guincher le menuet, elle se pointait à poil devant Loulou avec juste son éventail en pogne et lui disait « Majesté, je suis prête !» Il était écroulé de rire. Du Barry avait dit à Loulou en lui présentant sa femme « Vous verrez, sire, sauf votre respect, la Jeanne, elle a le génie de l'amour. Elle réussit bien aussi le café. Elle est très musicienne et c'est fou ce qu'elle peut arriver à faire avec une flûte, tellement elle a pris des leçons particulières. » Et c'était vrai que Jeannette était exceptionnellement douée pour la flûte traversière. Louis ne s'en lassait jamais. Après un concert particulièrement frénétique, s'il avait les cannes en fromage blanc, elle lui faisait un double expresso et il était prêt à remettre le couvert. Jeannette claqua un blé monstrueux dans les fêtes qu'elle organisait pour faire plaisir à ce vieux tendeur. Comme à chaque fois qu'elle jouait de la flûte à Loulou ou il lui offrait un bijou, elle en avait des caisses pleines. Avec les seules fringues qu'il lui avait douillées, elle aurait pu ouvrir les galeries Lafayette. Elle occupa quasiment la place de la reine, plus que la Pompadour. Car malgré toutes les meufs de rêve qui venaient faire la danse du ventre autour de son mec, ce brave loulou ne l'a jamais trompée. Faut dire que bien qu'étant aux petits oignons avec lui, elle évitait soigneusement de le gonfler ou de lui foutre les boules avec des scènes à la noix. Elle le laissait parfois se labre avec son tabac apprisé, ses brèmes pour se faire une réussite et une bonne tasse de kawa. Ça avait l'air de bien lui botter. Elle lui donnait à clapper des steaks de cheval et du céleri et lui faisait un 360 degrés sur la zigounette juste une fois par jour. Jeannette, qui s'était si souvent agenouillée devant les puissants pour des tas de raisons qui n'étaient pas toujours les mêmes, les avait à présent tous à ses pieds. Les ministres, les courtisans, les artistes, les philosophes, tous étaient prêts à lui lécher le fion. Le peuple, lui, c'était une autre paire de bretelles. Les chansons et les pamphlets contre elle lui auraient ruiné le moral si elle avait entravé ce qu'il racontait. On lui fit remarquer plus tard, pendant la Révolution, qu'avec tout l'artiche qu'elle avait claqué avec les libéralités de son généreux loulou, on aurait pu nourrir pendant 10 piges quelques milliers de blanchisseuses comme elle l'avait été elle-même. Quoi qu'il en soit, peu de femmes dans l'histoire des favorites ont amassé une si grosse fortune avec seulement 4 bosses et un petit trou. Loulou, un beau matin, se sentit barré en quenouille. Jeannette venait de lui faire son petit pontage quotidien sur le Mont Chauve, et il partit les 4 fers en l'air en s'écriant « Mon Dieu, je suis foutu !» Ça lui avait échappé. Mais oui, il réclamait Dieu, ce vieux loulou. Il sentait que ses boulons tiendraient plus longtemps. Il avait un traxir terrible d'aller en enfer, rallumer son tison à un autre feu bien différent de celui que la Jeannette avait dans le minou. Alors, la mort dans l'âme et la petite vérole sur la tronche, il dit doucement à son amante, qui depuis 6 ans déjà lui avait fait dégouliner le bonheur au fond de sa tasse de kawa, « Tire-toi, ma belle, je veux pas qu'elle enchaîne dans le péché. J'aime mieux que tu sois pas ici quand je vais baisser les stores. On a eu de sacrés moments tous les deux. Je ne suis pas sûre que là où je vais, on va s'occuper de ma pomme aussi bien que tu as su le faire. Je sais que c'est une mauvaise blague, mais garde ma blague à tabac, ça te rappellera des souvenirs. » Cinq jours plus tard, il laissa quimper sa cure de céleri. Là où il s'en fut, il n'en avait plus besoin. La Jeannette, qu'est-ce qu'elle devint? D'abord, les harpies de la cour l'ont cloquée au couvent, où pendant 1 an elle fut privée de café et dispensée de la corvée de céleri. Puis, à la sortie, elle eut un julot, le duc de Cossé-Brissac, qui était poilard comme un dimanche pluvieux à Hénin-Liétard. Elle s'est fait ensuite piquer tous ses bijoux qu'on a retrouvés chez les Rosebif. Elle va les chercher à Londres, et au lieu d'y rester, because la révolution qui occasionne tout de même en France quelques menus désordres, cette pomme à l'eau rallège à Paname, parce que sa propriété venait d'être mise sous scellé. Elle se fait encrister aussi sec par les valeureux révolutionnaires qui lui décollent le cigare le 8 décembre 1793. Sur l'abbaye de Mont-à-Regret, on l'entendit supplier. « Encore un petit instant, monsieur le bourreau. » Jeanne du Barry finit dans la fosse commune. Quant à Loulou, lui, on l'enterra à la sauvette à la basilique Saint-Denis. Le populo s'esclaffait sur le passage du corbillard en lançant « goguenard ». « Voilà le bonheur des dames qui s'en va !» Thank you.
Dites-moi, mon bon seigneur, ne serait-il possible de voir bien au-delà de la limite de ces champs où l'on cultive le mépris, la haine entre les gens, pendant que vous dormez sur ces coussins gonflés d'argent? Ne comprenez-vous pas, nous ne sommes point différents. Nous aimerions tout simplement nourrir nos enfants. Nous n'avons ni les biens, ni terre, ni même coussins que vous offrez si courtoisement aux tendres courtisanes. Je blâme votre honneur, tout comme celui de vos descendants, qui dans la file d'attente n'hésite pas à passer devant, le torse bombé d'orgueil, les poumons vides d'inspiration, à l'image d'un bon père qui exaspère tous ces millions de villes affamées qui jurent de vivre comme des damnés et qui pour eux sont prêts à tout pour que naisse la révolution. Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux femmes de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine. Dites-moi, mon bon seigneur, entendez-vous la rage qui fait trembler la France et les pavés sur votre passage? Elle gronde les ruelles, les rumeurs se propagent, on brûle les calèches et le lion sort de sa cage. Soutenu par ses penseurs, d'insouciants révoltés, au salon parisien l'absinthe a remplacé le thé, rendant la foule si ivre de toutes les libertés. L'individu est né par la force de son poignet. Qu'importe les barricades, le peuple a décidé. Les nuits seront terreur jusqu'à ce que l'homme trouve dignité. On arrache les symboles qui brillent comme une idole, qui trône sur la basse-cour rendant ces pauvres âmes si folles, qui rêvent d'un autre monde plus juste et plus honnête qu'une simple fête de roi où l'on partage la galette. Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux fables de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine. Dites-moi, mon bon seigneur, entendez-vous la fin du règne féodal qui plane comme un chant? Le peuple a fait serment, pour vous les pas perdus, d'un revers de la paume la France a su reprendre son dû. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces combats d'antan, de ces belles déclarations que l'on souille à chaque instant? Les rôles n'ont pas changé, en quelques décennies, la valeur de la vie s'aligne toujours sur le trottoir. Les gens n'ont-ils plus faim? Ont-ils un lit le soir? Mais qui donc joue la comédie sur le dos de mon histoire? Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux fables de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une une femme sous la burqa.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience.
Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds. Et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette pioule, faudrait penser à faire le ménage.
La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge.
Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes.
Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente.
Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés.
Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience.
Madame la République française, qui répondra de ses doléances?
Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Bonjour tout le monde.